C'est sans doute notre dernière occasion de s'entretenir avec notre ami Daniel Brière avant la pause du temps des fêtes. On l'a au bout du fil en direct. Bonsoir, Daniel.
Salut, Mario.
Daniel, le temps des fêtes, ça nous fait souvent penser au championnat du monde de hockey junior. Tu as eu l'occasion de participer à ça, de gagner la médaille d'or. Je pense que c'est après ta carrière, c'est encore un gros souvenir pour toi, hein? Un souvenir important.
Oui, sans aucun doute. D'avoir eu la chance de représenter mon pays, d'être choisi parmi, disons, le groupe de 22 ou 23 meilleurs joueurs juniors là, d'âge 18-19 ans, c'était tout un honneur. Puis, j'étais prêt à faire quoi que ce soit pour en faire partie. Encore aujourd'hui, le temps des fêtes, c'est à ça que je pense quand je pense au hockey. Puis j'ai hâte que le tournoi commence.
On s'entretenait hier avec André Tourigny, qui a déjà dirigé l'équipe canadienne, qui est adjoint cette année avec Dale Hunter. Et il nous disait, là, dans les jours qui précèdent le championnat, que le plus gros des défis, peut-être, c'est de faire en sorte que ces gars-là, là, rassemblés d'un peu partout au Canada, qui sont des vedettes dans chacun dans leur marché, de faire en sorte que ça soit une équipe, ces gars-là. Est-ce que c'est difficile de former une équipe avec des gars qui jouent ensemble le temps de quelques semaines avec la haute intensité d'un championnat?
Ouais, ben écoute, c'est du travail à faire, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense aussi que c'est une des forces du Canada, puis c'est une des raisons pourquoi le Canada est bon en général année après année, parce que pour les Canadiens, là, tout le monde en rêve, tout le monde rêve de faire partie. Puis comme je te disais plus tôt, on est prêt à faire n'importe quoi pour jouer dans cette équipe-là. Moi, j'ai été coupé à 18 ans comme le dernier joueur d'avant. Je l'ai fait à 19 ans, j'ai réussi à faire l'équipe, mais j'étais prêt à faire n'importe quoi pour avoir cette chance-là, pour avoir une deuxième chance de faire l'équipe. Puis moi, je me souviens, là, notre 13e attaquant, l'année en 97, quand on a remporté l'or, notre 13e attaquant était Joe Thornton. C'est assez impressionnant quand même. Tu sais, quand on voit aujourd'hui la vedette qui est devenue, la vedette qui était déjà à ce temps-là, puis il était prêt à jouer le rôle de 13e attaquant, puis il nous a aidé, il a marqué quelques gros buts. Donc, c'est ça que c'est pour le Canada, pour les joueurs. Oui, il y a du travail à faire, mais pour moi, c'est un des avantages, parce que n'importe qui est prêt à faire n'importe quoi pour jouer dans cette équipe-là, comparativement peut-être à d'autres pays, là, quand je pense des fois à la Russie ou la Finlande ou la Suède, qui ont des bonnes équipes. Mais je pense que c'est une des choses qui fait la différence pour le Canada.
Mais tu dis, Daniel, oui, il y a du travail à faire, puis ça rejoint, sans que tu saches qu'est-ce qu'il nous a dit, là, ce qu'André Tourigny disait, tu sais, ça se prépare, puis je sais pas comment on bâtit ça aussi rapidement, c'est quoi, par des ateliers, par des conversations, par... tu as participé à ça, puis peut-être même au niveau professionnel, on le fait encore, là.
Oui, puis je me souviens, nous autres, dans notre cas, ils nous avaient demandé à chaque joueur de dédier le tournoi à une personne spéciale dans notre cœur, puis tu devais t'expliquer en avant de l'équipe, puis expliquer pourquoi cette personne-là. Fait que là, tu apprends à connaître tes coéquipiers beaucoup plus rapidement. Tu sais que tout le monde a une raison de se battre, puis juste à y penser, j'en ai des frissons moi-même. Ça bâtit des liens forts très, très rapidement, parce que c'est ça que tu dois faire. T'as pas une saison complète à bâtir des liens. T'as seulement qu'à peu près 3 semaines pour devenir une équipe solide. Donc, il y a plein de petites choses comme ça, de petits ateliers, de choses d'équipe là, qu'Équipe Canada va faire pour renforcer ces liens-là. Puis je vous promets que ça fait vraiment une différence.
Et là, une fois que tu as fait cet exercice-là devant tous tes coéquipiers, devant tes entraîneurs, tu sors de là et tu as l'impression que tout le monde se connaît plus, se connaît mieux?
Oui, puis je me souviens, écoute, il y avait des exemples où il y avait un des joueurs qui avait perdu son père à l'été. Donc, tu peux imaginer que quand il s'est présenté en avant pour expliquer qu'il dédiait le... Écoute, j'en perds un peu la voix juste à vous en parler. Quand il s'est présenté pour nous expliquer pourquoi il dédiait ça à son père, un peu tout le monde s'est mis à pleurer dans la chambre. Écoute,
et c'est
je sais
prenant.
Pas si vous pouvez le sentir.
Ah
là,
ben oui, Dan, regarde.
J'en ai...
c'est
ça,
sûr.
Ça me touche encore aujourd'hui, puis ça fait quoi, 25 ans de ça? C'était, disons, très, très spécial. Puis c'est ça, ça approche. Les gars, tout d'un coup, deviennent très, très serrés. Puis on sait pourquoi on se bat, puis pourquoi que nos coéquipiers se battent. Puis ça renforce les liens.
Hey Daniel, tu sais, la radio, ça a quelque chose, hein? On se voit pas, on n'a pas l'image, mais le son de la voix, là, ça dit beaucoup. Et du même souffle, c'est très touchant. Puis écoute, c'est comme si on était entré dans le vestiaire avec toi, là, sans savoir c'était qui les gars autour. Et j'ai envie d'oser te demander à qui t'avais, toi, personnellement, dédié ton tournoi, ton championnat du monde de hockey junior à ce moment-là?
Oui, j'avais une personne spéciale dans ma vie aussi qui passait des moments qui était atteint, avait des problèmes de santé. Il restait pas beaucoup de temps à vivre. Puis justement, il y avait la chance de voir le tournoi. Fait que c'était, pour moi, c'était cette personne-là. Fait que c'était pour moi aussi là, très, très émotionnel, cette présentation-là, puis le reste du tournoi aussi, naturellement.
Et là, j'imagine que l'armure tombe après ça, puis tu peux devenir une véritable équipe. C'est comme d'exposer une facette très, très intime de toi-même, puis après ça, il n'y a plus personne qui peut se regarder de la même façon. Fait que c'est drôle parce que je suis content qu'on ait creusé ça, parce que c'est facile de dire, ah, il faut travailler ça, l'esprit d'équipe, mais voilà des exemples tellement concrets, Dan.
Ouais, je pense pas qu'on peut aller même plus creux que ça. Tu sais, quand tu vois tes coéquipiers pleurer, des copiers des fois que tu connais seulement pour quelques semaines, puis déjà, comme tu dis, se laissent aller émotionnellement, sont prêts à se dévoiler, tu apprends à les connaître. Comme je disais plus tôt, tu sais exactement pourquoi ces gars-là se battent, puis tu n'as pas le choix, tu veux tout laisser sur la patinoire, puis représenter ton pays, donner la chance à chacun de ces joueurs-là. D'être capable de l'expliquer, tu sais, quand ils reviennent à la maison, puis de dire, écoute, je me suis battu pour cette personne-là, je me suis aussi battu pour mon pays, puis voici ce que ça a donné. Fait que c'est très, très touchant. Ça a été une des expériences les plus difficiles, les plus touchantes, mais qui m'a rapporté le plus là, au courant de ma carrière.
Est-ce qu'on fait ça dans le pro, Daniel? Est-ce que les équipes professionnelles font ce type d'exercice-là?
Non, j'ai pas eu la chance de vivre quelque chose d'aussi intense, disons, au niveau professionnel. C'est sûr qu'il y a des choses un peu plus émotionnelles qui se sont passées quand j'ai eu la chance de jouer en finale de la Coupe Stanley. Mais honnêtement, c'était pas aussi creux que ce que j'ai vécu avec l'équipe Canada Junior.
Là, tu devines que j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu as vécu de dossier émotionnel en finale de la Coupe Stanley après que tu m'aies dit ça. C'était pas prévu, mais tu piques ma curiosité un peu.
Ouais, ben c'était des dédications des joueurs également, mais c'est un peu plus difficile. Disons que c'était moins touchant un peu que parce que les joueurs se connaissent un peu plus. C'était pas aussi creux, je te dirais, là, que okay. Quand tu te présentes devant des inconnus.
C'était moins peut-être authentique, où on est plus prude rendu là, on a peut-être plus une petite carapace, je sais pas.
Ouais, on se connaît mieux, disons, aussi.
Les
liens sont déjà tissés. Quand on se rend loin comme ça, on n'a pas besoin de creuser aussi creux et aussi rapidement, disons, pour créer ce lien-là entre les joueurs, parce que c'est quand tu joues avec les mêmes coéquipiers pendant une saison complète, des fois deux, trois, quatre saisons et plus, tu les connais déjà très, très bien, tu sais un peu ce qui se passe dans leur vie. Donc, c'est t'as pas besoin là de pousser aussi fort pour créer ce lien-là rapidement.
Et pour compléter sur le championnat du monde de hockey junior, t'as gagné l'or. Est-ce que c'est la conquête, ton plus beau moment de hockey de cet événement-là à l'époque, Daniel, ou c'est autre chose dans le tournoi?
Non, il y a pas de doute que gagner l'or était le summum là de ce tournoi-là. Puis tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour moi, c'était la première fois où je passais le temps des fêtes loin de ma famille. Puis ça aussi, c'est un côté qui était difficile quand tu as 18-19 ans. Pour la première fois de ta vie, t'es loin de tes parents, de tes frères et sœurs. Puis tu sais, nous autres, on était en Suisse. C'est pas comme si les parents étaient là pour nous supporter en Suisse. Donc ça, ce moment-là, le 25 et 26 décembre, ont été très, très difficiles pour la première fois là, d'être loin. Mais c'est sûr que les dirigeants Équipe Canada font les choses en grand puis s'occupent de leurs joueurs. Mais il y a comme un trou un peu, hein, pour la première fois que t'es loin de tout le monde. Mm-hmm. Ça, là, puis ça fait que quand tu gagnes finalement, cette médaille d'or-là, ben ça en vaut la peine encore plus. Puis tu te dis, écoute, ça valait la peine d'être loin de mes parents, de ma famille pour le 24 et le 25 décembre. J'ai quelque chose, voici la raison pourquoi je l'ai fait. Donc, c'est ce côté-là qui, quand tu gagnes l'or, là, tu repenses un peu à tout ça. Ça fait 3 semaines, 4 semaines que tu es loin de ta famille. Tout ce que tu as fait, tous les sacrifices que tu as fait, c'est là que tu les vois où ça paye.
Y a-tu des gars qui sont devenus dans la vie ensuite de la Ligue nationale des adversaires, des gros compétiteurs, mais que vous aviez un lien pour la vie, le fait d'avoir gagné l'or puis d'avoir partagé des trucs comme tu nous as raconté dans le vestiaire, qu'un clin d'œil, une fraction de seconde, que vos regards se croisent, que la connexion est encore là?
Sans aucun doute, ça reste toujours ça. Ça reste pour le restant de ta vie. Pour moi, écoute, Martin Biron est devenu un de mes très, très bons amis. Puis on s'en parle encore régulièrement quand on a la chance. Je me souviens d'avoir, pendant le lockout en 2005, je me suis retrouvé en Suisse, à jouer en Suisse avec Christian Dubé, avec qui j'avais partagé là, cette conquête-là aussi quelques années auparavant. Puis tu vois que les liens étaient encore là, c'était une relation plus personnelle parce qu'on se connaissait de là. Puis vous allez rire peut-être, mais un des entraîneurs que j'ai trouvé très, très difficile de jouer pour était Mike Babcock.
Ben oui.
mais le fait, puis je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui sont du même avis que moi, d'après ce qu'on entend dire. Moi, je l'ai seulement eu pour à peu près un mois. Puis c'était difficile. Il était très, 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 très demandant. Mais cette relation-là va toujours rester. Quand tu gagnes avec un entraîneur ou un autre coéquipier, ça reste toujours ça. Puis quand j'ai eu la chance de revoir Mike Babcock à travers ma carrière dans la Ligue nationale, il y avait toujours ce respect-là entre nous deux. Que oui, on avait accompli quelque chose de spécial ensemble.
C'est bon. Hey Daniel, écoute, j'avais tellement de sujets de hockey, mais c'est tellement bon tout ce que tu nous racontes que j'ai envie de faire un parallèle. Tu nous parlais du temps des fêtes, qui est synonyme de championnat du monde de hockey junior. Mais dans toutes tes années professionnelles, qu'est-ce que ça signifie? C'est-tu triste, c'est-tu joyeux Noël quand on joue hockey dans la Ligue nationale de hockey puis qu'on joue sur la route puis on revient une couple de jours où le party de Noël d'équipe, c'est un moment important? C'est quoi Noël quand on est un joueur de la Ligue nationale de hockey? C'est quoi les images qui te viennent en tête si tu as quelque chose à nous raconter là-dessus?
Ben écoute, non, il n'y a pas rien vraiment de spécial. Ce qui est le fun pour les joueurs souvent, c'est que on a 3 jours de congé. C'est comme le seul temps de l'année. Ben non, c'est pas vrai. L'arrêt du match des étoiles sont comme tes 2 temps d'arrêt pendant la saison. Fait que c'est 3 matchs où tu as la chance d'aller passer du temps en famille. Souvent, les joueurs ont de la famille qui viennent les visiter pendant ce temps-là. Donc, je te dirais que c'est probablement ça. On a la chance de côtoyer là nos proches un peu plus pendant le temps des fêtes. Les équipes souvent essaient de s'arranger, soit qu'ils sont à la maison un peu avant Noël ou juste après Noël, pour que les joueurs aient la chance là, de passer du temps en famille.
Pour la forme, au moins une question de hockey proprement dite. Taylor Hall en Arizona, tu as évolué dans ce marché-là. Penses-tu que ça peut avoir un impact? Je ne sais pas s'il va être là juste quelques mois ou quelques années, mais mettons qu'il les aiderait là, à aller loin en série. Penses-tu que ça peut être bon et durable pour le marché de l'Arizona, Daniel?
Ben, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas si ça va aider plus qu'un gros marché, mais il n'y a pas de doute que ça va avoir un impact. Les Coyotes qui sont en bonne position pour l'instant, mais écoute, il n'y a personne qui a peur des Coyotes de Phoenix encore pour l'instant, même en ajoutant à Phil Kessel. Mais là, tu rajoutes un Taylor Hall, ça commence à changer. Puis je pense que pour moi, c'est plus le côté respect des Coyotes de Phoenix qui va s'améliorer. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, je suis excité. C'est sûr que j'ai joué là, fait que j'ai un petit peu un parti pris pour les Coyotes, puis je veux que l'équipe reste là. Mais je suis excité là, de voir un gars comme Taylor Hall s'amener là, puis j'espère qu'ils vont être capables de le garder pour les prochaines années également.
Daniel, un gros merci de tes commentaires. Je suis encore touché, remué de tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment un beau moment. Je te souhaite de très joyeuses fêtes. Très joyeuses
fêtes.
Merci,
puis je compte. Merci, pareillement. Puis heureusement que on n'était pas à la télévision parce que ça aurait été gênant.
Ben voyons donc, Daniel. Comment ça se fait qu'on a peur de nos émotions comme ça, les hommes, Dan? As-tu une explication?
Non, non, j'ai pas d'explication, mais j'avoue, ça a été très, très touchant de repasser à travers ces mémoires-là.
Je te dis un gros merci, Dan. À bientôt. J'ai bien hâte de te reparler en 2020.
Pareillement.
Ciao.
Bon temps des fêtes.
Salut, toi Mario. Aussi. Merci, Daniel. À bientôt. Au retour, Marc-Antoine Godin du athlétique.com aux amateurs de sport.